Donc voilà, là on voit bien, je trouve, quand j'ai vu votre texte, on voit bien la gamme des types d'emprunts, emprunts fonciers à long terme jusqu'aux emprunts court terme, qui décrivent ces relations ces relations commerciales et ici, à ce moment-là, de domination avec les grandes mains. Puis en écoutant, là, je rajoute plus ça, je me disais que finalement, le problème, c'est que on peut pas la lecture par le crédit, un même crédit peut avoir un sens complètement différent selon les moments économiques. Donc dans ce moment économique très défavorable à la viticulture charentaise, ces crédits disent disent leur domination. Mais en même temps, au début des années 60, ils ont fait aussi comme des malades des emprunts fonciers pour s'agrandir. Mais là, c'était à une période où le cognac se vendait beaucoup. Et donc, on peut pas du tout nous dire de la même manière. Et même chose sur les varans. Donc, ils posent la question du stock et du financement du stock. Le stock aujourd'hui pour les viticulteurs, c'est avant tout, enfin le stock aujourd'hui, je ne devrais pas dire aujourd'hui, mais pendant mon enquête, le stock, c'était vraiment une charge de trésorerie extrêmement lourde à financer, alors que dans les années 60, le stock c'est aussi de la valeur, quelque chose qui peut prendre de la valeur suivant les types de cognac qui vont se vendre. Dans les années 60, c'était davantage des vieilles qualités de cognac, donc avoir un stock important qui vieillit, c'est le trésor, quoi. Alors que dans la période plus récente, où c'est plutôt les jeunes qualités de cognac qu'ils ont, ça devient une charge financière. Et donc, du coup, les crédits qui sont associés au financement du stock n'ont pas du tout le même sens selon les moments économiques. Voilà ce que je voulais dire. Alors, du coup, j'en arrive à ce qui était davantage dans le dossier. J'aurais pu travailler sur le crédit de plein de manières. Si j'avais travaillé, j'ai pas du tout travaillé sur la relation avec les banques, sur la relation avec les notaires ou sur l'encadrement de la profession, ces crédits. Alors que, en fait, ça aurait été possible de le faire, ou du moins, moi, ce que j'ai dans ma tête, c'est le point de vue des viticulteurs par rapport à toutes ces institutions quand il y a de leur crédit, mais j'ai jamais la relation prise des deux côtés. Et du coup, ce que moi j'ai davantage dans ma thèse, c'est tout ce qui est crédit dans la famille, arrangement familial autour du crédit. Et notamment autour de deux choses. Le premier, c'est sur les transmissions. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment développé dans les textes que j'avais envoyés. Donc le premier point, c'est tous les arrangements familiaux lors des transmissions patrimoniales. Alors, je veux dire plusieurs choses. La première, c'est que j'ai étudié donc c'est ce qu'ils appellent arrangements familiaux, c'est-à-dire les donations entre vifs qui permettent la transmission du patrimoine professionnel à l'enfant repreneur de l'exploitation. Et ce que j'ai montré dans la thèse classique, c'est qu'il y a deux logiques contradictoires, qui sont celles de l'équité entre les travailleurs d'un côté et celle du maintien du patrimoine professionnel viable entre guillemets selon les critères de la profession de l'autre. Ce qui m'a davantage surprise, c'est qu'on aurait pu se dire, d'un côté il y a le repreneur qui va être en faveur du maintien du patrimoine professionnel et de l'autre, et éventuellement les parents. Et puis de l'autre, l'équité entre germains, ça va être davantage les frères et sœurs qui vont rappeler cette chose-là. Alors qu'en fait, pas tant que ça. Dans la plupart des cas, tous les protagonistes des arrangements de famille sont porteurs de ces deux, enfin, tiennent ces deux logiques. Et en fait, pour un repreneur, c'est extrêmement inconfortable, parce que j'avais pas compris ça avant, pour les repreneurs, c'est extrêmement inconfortable d'être débiteur de ses frères et sœurs. Et que les frères et sœurs peuvent aussi avoir une sorte d'intérêt que le patrimoine professionnel se maintienne dans la famille. Et en fait, ce à quoi je suis arrivée au bout d'un moment, c'est que finalement, ça dépendait beaucoup des trajectoires sociales. L'équilibre entre ces deux logiques dépendait beaucoup des trajectoires sociales de ces familles de viticulteurs et de l'ensemble des frères et sœurs, à la fois du repreneur mais aussi des autres. Et qu'en fait, certains frères et sœurs qui devenaient par exemple cadres, qui avaient des bons revenus, qui n'avaient pas eux, en fait, ils étaient vraiment dans une logique, dans une espèce de posture de la générosité vis-à-vis de leurs frères, qui reprenaient l'exploitation, et c'est pas grave s'ils remboursent pas, etc. Alors que les situations les plus difficiles dans les familles se posaient quand c'était des petites exploitations, où il n'y avait pas d'autres patrimoines, parce que dans les grandes familles, ils diversifient le patrimoine en achetant des maisons, notamment, et aussi avec des patrimoines financiers. Essentiellement, ils jouent du patrimoine immobilier de rapport pour gérer les arrangements de famille. Alors que les cas les plus difficiles, c'est quand il n'y a rien d'autre que l'exploitation, et qu'il y a des frères et sœurs qui auraient besoin d'argent pour eux-mêmes payer les crédits de leur maison, ou des choses comme ça. Et donc là, il y avait un cas là, que vous avez envoyé, celui d'Armand Durand, qui montrait bien ça. C'est un viticulteur qui a du mal à joindre les deux bouts, c'est vraiment une trajectoire où on s'arrache de la condition ouvrière entre les années 70 et 90. Et puis ses sœurs, alors il y en a une qui est aide à domicile, qui vit avec un facteur, son frère est mécanicien marié avec une fonctionnaire, et une autre sœur qui est célibataire, qui n'a pas d'emploi très régulier, elle fait du bricolage, du ménage comme ça, voilà ce que je sais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est dans cette fratrie-là, la première chose, c'est que donc la propriété est encore aux parents, et donc Armand Durand, qui a 46 ans, il doit payer un fermage à ses parents. Mais il a 3 années de retard dans ce fermage, donc là, on a une première forme de crédit dans la famille. Et alors, ce qui est amusant, c'est que tout à l'heure, on parlait de crédit gratuit. Mais alors, certes, c'est gratuit en argent, mais ça se paye en autre chose. Et ça se paye en... donc ça, c'est toute l'enquête hein, sur lui, sur ses enfants. Mais ça se paye en remarques, en du style de la grand-mère qui dit qu'elle va devoir piocher dans son livret d'épargne pour se refaire les dents, le fils qui ne va plus voir ses grands-parents parce que sans cesse il rappelle cette dette. Enfin, donc voilà, c'est lourd quoi, la famille, alors que ça paraissait comme ça une espèce de ressource assez formidable. Mmh. Il y a aussi ça. Et alors la question c'est... Donc les frères et parmi les frères et sœurs, il y a une des sœurs, celle qui aide à domicile et qui vit avec un facteur, qui souhaiterait que les arrangements de famille aient lieu. Et Armand, lui, il sait qu'il ne peut pas payer la succession à ses frères et sœurs. Donc lui, l'idée qu'il voudrait faire, c'est une société, donc un groupement aussi agricole, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc ça veut dire que chaque frère et sœur reste propriétaire de sa part de l'exploitation et ensuite le repreneur paye son fermage non plus à ses parents mais à l'ensemble de la fratrie. Mais la sœur résiste à cette solution-là parce qu'elle, elle voudrait de l'argent parce qu'elle a son crédit immobilier à payer. Et là, dans cette famille, on voit bien la différence entre deux frères et sœurs. Celui qui est mécanicien, Armand me dit, lui, il a déjà payé sa maison parce qu'il l'a fait lui-même en grande partie. Sa femme est fonctionnaire, ils ont de l'argent, donc lui, il met moins la pression que son autre sœur. Voilà, et puis bon, ce que je montre un peu là dans le texte, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le droit agricole est fait de telle sorte que, en gros, les frères et sœurs n'ont aucun recours. Ils ne peuvent pas virer leur frère de l'exploitation, puisqu'il y a un bail de 18 ans, à long terme de 18 ans renouvelable. Donc, en gros, Armand, il est indéboulonnable. Et le rythme, on voit bien que le rythme auquel va avoir lieu ces arrangements de famille est en fait très important, enfin, fait partie de la question de l'équité. Et donc, les parents, finalement, donc certes, ils l'en font baver là, en lui rappelant sans cesse les dettes, etc., mais en même temps, ils le préservent en ne lançant pas, en ne faisant pas les arrangements de famille tout de suite et en attendant. Et donc, cette stratégie d'attente bénéficie à Armand. Et à l'inverse, donc voilà, mais bref. Donc il me semblait que ça, c'était intéressant par rapport à tout ce qu'on avait dit pour aller regarder ensuite dans la famille comment ça se passe quand il y a du... Puis alors l'autre, je finis en 2 minutes, l'autre chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est les relations de crédit dans le couple, dans les couples. Parce que les compagnes de ces jeunes viticulteurs sont... Elles ont raison. Elles sont de moins en moins et même sur mon terrain, enfin ça c'est valable pour l'agriculture, mais sur le terrain, l'agriculture en Charente, elles sont toujours, presque toujours, salariées à l'extérieur de l'exploitation. Elles n'ont pas du tout des situations très élevées. En gros, elles correspondent exactement au portrait des femmes sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt employées, beaucoup aides à domicile dans les secteurs des services, donc aides à domicile, aides-soignantes, aides à domicile, aides-soignantes, caissières, et ça va jusqu'à infirmière, instit, en gros. Et elles ont, elles travaillent souvent à temps partiel, elles ont des carrières complètement hachées par, les maternités, avec des passages avec des allocations parentales, des congés parentaux. Bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jeunes viticulteurs soutiennent énormément l'activité professionnelle de leurs femmes. Et une des raisons de ça, c'est que avoir une femme qui travaille à l'extérieur permet de soutenir financièrement le foyer, et ça s'articule en fait très étroitement avec les pratiques de crédit. Alors ça, c'est ce que j'ai montré à travers un cas qui était à la fin du dossier, c'est que faire de très lourds investissements sur l'exploitation peut parfois, alors en plus là dans cette histoire-là, ça se coupe avec du crédit immobilier, mais faire des gros investissements sur l'exploitation parfois n'est possible que parce que derrière il y a un salaire régulier mensuel qui vient financer, qui vient payer les factures de la maison, les vêtements, l'électricité, etc. Et du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai observé plusieurs cas où des compagnes de viticulteurs devenaient comme ça co-empruntrices ou garanties ou cautions, ou même plus informelles parfois. Parfois, on accorde des crédits à l'un. Alors ici, c'est un crédit immobilier. Un crédit immobilier accordé au jeune viticulteur qui est propriétaire de la maison, ce qui est tout le temps le terme, c'est pas comment expliquer, mais toujours les jeunes qui sont propriétaires. Et un crédit immobilier accordé au monsieur, donc, parce que même si sa femme n'est pas co-empruntrice, mais le banquier tient compte des salaires de la compagne, c'est ce qui permet que le prêt soit octroyé. Donc voilà, donc du coup, ça c'est quelque chose que j'aimerais creuser peut-être au-delà de la viticulture et au-delà de l'agriculture. C'est toutes ces pratiques de cautionnement, garantie familiale qui permettent le crédit, ou voire même le simple fait qu'il y ait un salaire dans le foyer qui permet que le crédit ait lieu, et qui ne sont pas toujours visibles comme ça. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, il nous reste un quart d'heure pour ceux qui doivent partir à 5 heures, mais en fait... on va dire jusqu'à 45 minutes, parce qu'on se dit qu'on va en tout cas finir vers 5h30, mais ceux qui veulent continuer peuvent rester jusqu'à 6h. Donc voilà, n'hésitez pas à poser rapidement vos questions. Oui, Déborah.
Si on entend, parce que
j'ai
trouvé très intéressant, qui vient de la perspective de Laurence Fontaine, de montrer comment les paysans peuvent jouer de la dette, et du coup, voilà, en étant dans cette logique-là, j'étais un peu troublée par l'insistance de Céline Bessa vraiment sur cette logique de... Enfin, sur l'insistance sur le rapport de domination, enfin, hein, un peu une logique de victimisation de ces pauvres agriculteurs, mais notamment quand... Évidemment, j'imagine bien que